sommes sur RVR dans l'émission Bout de vie qui rencontre aujourd'hui Alain Faucoux qui nous présente son livre Les Vendanges de la Croix-Raisin paru en 2022 aux éditions du Maupassant. Bonjour Alain.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus.
C'est ça. On en reparlera après pour que les auditeurs puissent vous retrouver. On donnera la référence de la première émission. Alors, donc, avant ça, rappelez-nous brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes et d'où vous venez, s'il vous plaît.
Alors, qui je suis ? Vaste question. Je suis un ancien commercial qui a passé toute sa vie sur les routes de la région. Et puis, au moment de la retraite, après avoir géré en parallèle à mon travail une maison d'édition pendant 19 ans, j'ai vendu cette maison d'édition. Ça m'a donné du temps libre pour me mettre à écrire. J'ai donc commencé à écrire une saga familiale romancée. Je ne sais pas si c'est le moment de la citer. Le premier titre, c'était « L'oublié de Marie Galante ».
On en parlera après, oui.
Voilà. Après, il y a eu « La scie des Amouillots ».
Oui.
Et là, donc, je suis là pour vous présenter « Les Vendanges de la Croix-Raisin », qui est le troisième et dernier tome de cette saga.
Très bien. Alors, justement, vous parlez du début de la saga, des deux tomes. Alors, vous êtes venu nous présenter ce travail romancé, donc en juin 2021, et on le dit pour les auditeurs, cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur RVR, donc en tapant donc l'émission Bout de vie dans la partie archives. Voilà, donc vous pouvez retrouver intégralement l'émission et entendre ce qui a été dit sur les deux premiers ouvrages de cette saga. Alors justement, Les Vendanges de la Croix-Raisin, c'est le troisième tome qui arrive dans la foulée des deux premiers. Donc cette saga trouve sa source dans les monts du Forêt, le Rouennais et Saint-Chamond. Avant de parler donc du dernier opus... est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire de ce gars, notamment Annette Vaudable, qui est ce gars qui est parti de rien dans les deux premiers ouvrages et qui va devenir, à force de travail, un commerçant aguerri dans le domaine notamment du sciage du bois. Est-ce que vous pouvez aussi nous resituer l'époque ?
Alors l'époque, c'est le 19e siècle, puisque l'idée de départ, c'est une histoire vraie. Mon arrière-arrière-grand-père, dont j'entendais dire dans la famille qu'il avait été oublié au service militaire en 1830, c'est-à-dire qu'il n'était pas rentré après ses 6 ans de service. Donc ça m'a donné l'idée, il était parti en Guadeloupe, ça m'a donné l'idée de lui inventer toute une histoire là-bas. Bon, il s'avérera, et à la lecture du livre, on saura que c'est pas aussi simple que ça. Il fait donc son service militaire. Il revient en France après 8 ans de présence à l'étranger. Il n'a plus sa place à la ferme. Il s'installe donc dans un domaine qui lui plaît beaucoup, le bois. Mmh. Il est donc scieur de long, un travail qui est très dur, très pénible pour faire des planches, des bastings, des poutres. Et gagnant quelques sous, il arrive à acheter une scierie mécanique. À ce moment-là, il a les moyens de prendre femme et d'avoir des enfants. Et c'est donc toute sa vie qui passe dans le deuxième tome, La scie des Amouillots.
Alors, situez-nous l'endroit, quand même.
Alors, l'endroit, c'est dans le Livradois, c'est à Saint-Éloi-la-Glacière, c'est entre Ambert et Issoire, géographiquement, largement, géographiquement, pour l'expliquer. Cette scierie va lui amener un drame, que je ne vais pas dévoiler ici, bien sûr, qui entraîne le troisième tome, où c'est sa veuve qui va... du coup, je dévoile.
Alors,
c'est sa veuve qu'on va retrouver dans le troisième tome, qui se retrouve avec 7 enfants, dont certains en bas âge, et qu'elle va élever toute seule en rejoignant sa famille qui est sur Rouen.
D'accord. Alors, avant d'entreprendre justement de parler du troisième tome, on va faire une petite coupure et on y va après. Thank you. présente maintenant son livre « Les vendanges de la Croix-Raisin » qui est paru aux éditions du Maupassant en 2022. Alors Alain, avec les vendanges de la Croix-Raisin, Annette, l'homme à la canne, grâce à quoi, d'ailleurs, cette fameuse canne, il s'est sorti de bien des embûches et des traquenards, hein, vient de mourir. Bon, peut-être que vous pourrez en dire deux mots, justement, de cette fameuse canne et de l'exercice de, on va dire, de bagarre, hein, qu'il oui. a appris pendant le temps de sa période militaire. Avant d'aller sur la suite, dites-nous en deux mots, histoire, parce que moi, ça m'a bien plu.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est vraiment complètement original, enfin, pas connu, alors que ça existe encore. À cette époque-là, les autorités ne souhaitaient pas que les hommes du rang portent l'épée ou utilisent l'épée. Donc, pour faire de l'escrime, on leur donnait des bâtons d'un mètre, un mètre cinq, un mètre sept, je crois. Et ils faisaient le jeu de bâtons, et non plus l'escrime. Mais avec une technique vraiment pointue.
Des règles.
Des règles, tout à fait. Donc, il y avait un temps de bagarre. Et comme pour l'escrime, on se mettait en fente pour éviter, on se mettait en attaque, etc. On faisait des moulinets. Et il apprend tout ça. Il l'apprend tellement bien qu'il obtient deux diplômes. Un de brevet et un de maître.
Ce qu'on dirait aujourd'hui des degrés, quoi.
Des degrés. Le maître, c'est quand même celui qui va enseigner aux autres la technique. Et on a trouvé, pourquoi j'ai parlé de ça, parce qu'on a trouvé les diplômes en question dans les archives familiales. À partir de là, j'ai pu broder sur les bagarres qu'il avait eues, enfin pas les bagarres, les matchs.
Oui, les matchs, et puis souvent des moyens de défense aussi.
Alors ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le deuxième tome, quand après il est à son compte, comme il est obligé de parcourir les chemins d'Auvergne, qui ne sont pas toujours bien sécurisés, bien famés. Et donc il part avec son bâton, parce qu'une fois il ne l'avait pas, il s'est fait attraper, et donc ça a servi de leçon. Et donc ce jeu de bâton existe toujours, j'ai découvert qu'il y avait une société sportive à Paris,
Du jeu de bâton.
Mais il était, à l'époque, on disait jeu de canne. D'accord. Et c'est pour ça que quand on parlait de maître de canne, je me demandais bien ce que ça pouvait être. Il y avait la canne à sucre, c'est pas ça. Mmh. Il y avait la canne du tambour majeur, c'est pas ça non plus. Mais il y avait la canne du jeu de canne et donc du jeu de bâton.
Et question, est-ce qu'il y a un lien avec la canne que portaient les compagnons, justement, dans leur chemin? On les voit souvent avec cette canne aussi.
Non, parce que les compagnons, la canne, c'était un objet de prestige, enfin, oui. C'était une sorte de drapeau pour eux.
D'accord.
C'est rien à voir. Objet de jeu, comme un arc pour le tir à l'arc, d'accord. Comme la sarbacane pour les baveux à Saint-Étienne. Mm-hmm. Là, c'était le bâton, donc pour un jeu de bâton.
D'accord. Enfin, en tout cas, vraiment, je vous invite à découvrir tous ces passages parce qu'ils sont très, très intéressants. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a vues peut-être dans certains films, mais dont on a oublié un peu la teneur et la technique. Alors, pour revenir à votre livre, donc, Les vendanges de la Croix-Raisin. Son épouse, donc, à notre Annette, là, qui vient de mourir, qui s'appelle Marie-Joséphine, elle se retrouve seule pour élever 7 enfants. Donc, on imagine que ça ne devait pas être simple. Mais dans votre roman, vous portez l'attention sur Francisque, que nous allons suivre plus particulièrement dans les pages de ce roman. Alors, qui est Francisque dans un de ces sept enfants?
Alors, c'est l'avant-dernier de la fratrie. D'autant plus l'avant-dernier qu'il y a eu 12 enfants, en fait, dans l'histoire au début, oui. Dont 5 qui sont morts en bas âge, comme c'était le cas à l'époque. Mm-hmm. Et donc ce Francisque, c'est un des gamins qui, quand ils étaient à Clermont-Ferrand, est tombé en jouant, oui. S'est fracturé le bassin, que ça a été mal réparé parce que le gamin n'a pas moyen de le tenir tranquille. Et du coup, il boite à vie.
Colication à vie. Mm.
Et il portera toute sa vie une canne pour soutenir cette hanche défectueuse. Et ce Francisque, obligé de se battre contre l'adversité de son infirmité, va développer une force morale, une force mentale.
Et intellectuelle.
Et intellectuelle, bien sûr. Il va à l'école, il va devenir expert comptable. Il va boursicoter, il va gagner de l'argent. Et il va, donc entre parenthèses, c'est lui qui va entretenir sa mère dès qu'il est en âge de le faire. Et il va donc avoir envie... Il découvre la vigne dans le Rouennais, les côtes rouennaises. Mmh. ça lui plaît énormément. Donc il se dit, si je fais construire une maison, il faut qu'il y ait du terrain pour mettre de la vigne.
C'est son rêve, en fait.
C'est son rêve. D'accord. Et il trouve cette maison à Saint-Chamond, dans le quartier de la Croix-Raisin, d'où le titre.
D'accord. Alors là, vous allez peut-être un petit peu vite en besogne.
Vous voulez que je revienne à Rouen ?
Alors, c'est moi qui vais y revenir. Alors, d'accord. Et cette fameuse famille, vous lui faites traverser toute une période, et on la retrouve à la fin du 19e siècle en soulignant adroitement notamment toutes les inventions de cette époque, et puis aussi les avancées technologiques du moment. Je cite donc l'automobile, le train, le téléphone et l'exposition universelle, la Tour Eiffel. Alors on est assez abasourdi dans votre livre quand on découvre tout ça, et c'est franchement c'est très très bien de l'avoir fait comme vous l'avez fait, parce que ça remet quand même en perspective dans l'évolution de nos époques des moments clés, mais aussi malheureusement des catastrophes, des grands incendies, des accidents de train. Alors sans tout dévoiler, tout parcourir, mais est-ce que vous pouvez par exemple nous prendre un fait où justement un membre de la famille Vaudable est impliqué, volontairement ou non, mais où vous les avez impliqués dans un événement important?
Alors il y a une des filles de la famille, lorsqu'ils habitent Rouen encore, qui travaille chez un imprimeur, qui rencontre des éditeurs qui sont ses clients et qui du coup accepte une offre d'emploi sur Paris. Elle monte à Paris, donc elle se marie à Paris, et elle a l'occasion d'aller visiter l'exposition universelle de 1900. Mmh. Ça me donne l'occasion de parler des découvertes à cette époque. Et puis, elle visite, un jour, elle va, je ne sais plus la date, mon Dieu, je crois que c'est en 1906, elle va visiter le bazar de la Charité.
Oui,
c'est toutes des dames patronesses qui amènent des tableaux, qui amènent des vêtements, qui amènent pour vendre, pour faire de la charité. Mmh. Et tout le monde connaît le destin du bazar de la charité. Donc je la mets dans ce cadre-là, ça me permet de décrire cet événement de l'époque. Mmh. Voilà, je raconte également qu'il y a un des enfants de la génération d'en dessous qui va partir à Londres pour perfectionner son anglais, et qui va à l'époque des Jeux Olympiques de Londres, où entre autres, le marathon qui faisait 42 km est passé à 42-185 mètres. J'explique pourquoi.
D'accord. Bon, très intéressant en tout cas. On voit que à travers votre histoire, et c'est tout le long comme ça, à travers les trois tomes, on voit que la grande histoire, ou plutôt la petite histoire, rejoint la grande histoire. Et ça, c'est très très bien en termes, on va dire, pédagogiques, et puis en termes d'information tout simplement. Alors là, on va pousser un petit peu plus loin. Au début du XXe siècle, donc les soubresauts sociaux, lors des débats animés autour de la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu des tensions très fortes, notamment au moment des inventaires. Vous en parlez dans votre ouvrage, des biens ecclésiastiques. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, et quel incident justement ça a eu aussi sur cette famille Vaudable, pardon.
Eh bien, c'était une famille qui était, comment dire, très
croyante
et puis carrée, droit dans ses bottes. C'était pas une famille à manifester, à être dans l'extrémisme de quel côté qu'il soit. Et là, tout d'un coup, il découvre, avec un des enfants qui va dans une école catholique qui existe, je l'ai pas inventé, un collège catholique.
Vous le citez, c'est les Maristes.
Le collège Sainte-Marie à Saint-Chamond. Et en pleine époque où ça bagarre terriblement, depuis 1880 à peu près, il y a de plus en plus d'anticléricalisme dans l'administration française, jusqu'à arriver à l'époque du petit père Combes, et puis de la fameuse loi de 1905, séparation d'Église et l'État, avec la peur qu'il ne puisse pas continuer ses études, parce qu'il est né en 88, donc il a 17 ans, il est en plein lycée, en fin d'études. Et qu'est-ce qui va se passer? Or, il se trouve que dans certaines régions, dans certains endroits, par Dieu sait quelles interventions, il ne s'est rien passé. Mmh. Le collège a continué de fonctionner, je signale qu'il tourne encore au jour d'aujourd'hui.
Voilà, donc il se retrouve, comme certainement beaucoup, beaucoup de familles, hein, que ce soit à Saint-Chamond ou dans d'autres régions, victimes finalement de ces orientations politiques qui ont marqué l'histoire de la France.
Je pense que vous voulez faire allusion à des épisodes que je mentionne, c'est que dans certains villages,
oui,
les commerçants, surtout c'est des commerçants je crois qui ont fait ça, ils se sont mis en milice en quelque sorte pour empêcher que les agents de l'État viennent relever les biens de l'Église.
Bien sûr.
Pour protéger les ciboires, protéger les calices, protéger les croix, protéger tout ce qui avait un peu de valeur dans les églises que l'État voulait récupérer. C'était un petit peu 1789, 120 ans après, quoi. Et il y a même eu des bagarres et il y a eu un mort, vous le mentionnez tout à l'heure.
Monistrol sur Allier, hein, c'est ça?
Sur Allier, oui.
Alors, pour l'information de tout le monde, c'est vrai que c'est bien qu'on en parle. Donc là, on est sur des régions proches, mais c'était la même chose, si on peut dire, par exemple, dans le Cantal, dans le Jura, on a eu jusqu'à des portes d'église murées. Et puis aussi, l'anecdote que je raconte souvent et qui est intéressante à savoir, lorsque les agents de l'État sont là, on décroche les crucifix qui sont encore dans les écoles publiques.
Oui.
Et puis, dès que les agents sont partis, on les remet.
Oui.
Donc, ça, c'est tout un symbole.
En oubliant qu'il y a la trace qui est restée sur le mur.
Donc, c'est tout un symbole du marquage de la religion chrétienne dans nos cœurs, nos âmes et nos pays.
C'est un aspect des guerres de religion.
C'est ça.
Il ne faut pas l'oublier.
C'est ça, c'est sûr. Alors, on continue sur Francisque, ses études, le baccalauréat obtenu et son travail de comptable et ses investissements boursiers. Donc, c'est pas nouveau non plus, ça. Hein, donc, les gens qui, on dirait maintenant, boursicotent.
Oui.
Voilà. Alors, si Francisque n'a pas eu à se défendre avec sa canne, hein, comme son père.
Pardon de vous couper, tout petit, hein, sorti de l'école. Oui, parce que comme il est infirme, il est moqué à l'école.
Vrai.
Et il rentre chez lui le soir avec une lèvre en sang. Sa mère lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils lui dit ils sont moqués de moi, mais t'inquiète pas, je ne me suis pas laissé faire. Sa mère
donc
est horrifiée.
Elle
dit enfin, qu'est-ce que ça fait? Je me suis défendu avec mon bâton. Et là, c'est une grosse émotion pour la mère qui se rend compte que son mari, qui est décédé, a influencé au-delà de la tombe. Le fiston pour se défendre avec le bâton.
Donc les traces, la famille.
Les traces, oui. Ouais.
Alors pour revenir donc au parcours de Francisque, donc il tient d'Annette son père le commerce, son goût des chiffres, hein,
oui.
Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis surtout pour leur fructification boursière. Alors moi peut-être nous en dire deux mots sur ce parcours un petit peu atypique.
Eh bien, d'abord, il travaille dans un cabinet hein, d'experts comptables. Ce qui va lui donner pardon.
C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, oui, des cabinets
comptables. À l'époque, on disait les cabinets comptables.
C'est ça, oui.
Ça va lui donner l'occasion de voyager un petit peu dans le Rouennais, puisqu'il va chez des clients pour faire des relevés de comptes, des relevés de factures, etc. Ça lui donne l'occasion d'aller à La Palice, entre autres, où il est chez un chapelier, où il va rencontrer une certaine Michèle qui va vraiment lui taper dans l'œil. Et malgré son infirmité, elle reste très... Elle est séduite par ce personnage.
Personnage atypique.
Sachant quand même, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on se mariait parfois, et très souvent, par intérêt, par arrangements familiaux, etc. Lui, il se marie par amour, il va la chercher là où il l'a trouvée.
Allez, on va faire une dernière petite pause avant de conclure. Alors nous sommes sur RVR dans l'émission Bout de vie qui rencontre aujourd'hui Alain Foucault qui nous présente donc son livre Les Vendanges de la Croix-Raisin. Donc livre paru en 2022 aux éditions lyonnaises du Maupassant. Alors on continue donc on retrouve notre héros principal dans ce roman, Francisque. Il a un rêve, ce personnage. Et toute sa vie, il se dit, il faut qu'un jour j'aie ma propre vigne. Voilà. faire son vin. C'était ça son idée. Pourquoi ce projet ?
Alors, peut-être aussi parce qu'il a un de ses frères, oui. Barthélemy, qui a été embauché dans une exploitation viticole de la Côte Rouennaise. Il est allé le voir, il a vu son travail, il s'y est passionné pour ce travail. Et puis son frère a pris du grade dans ce vignoble, il a gagné un peu d'argent suffisamment pour acheter une Panhard Levasseur, une des premières voitures qui roulait lentement en pétaradant et en fumant. Et il a été subjugué par cette voiture, par cette réussite. Et en même temps, par le travail de la vigne, c'est le paysan qui revient. Il faut voir qu'il est petit-fils de pauvres paysans d'Auvergne, dans les livres précédents. Il n'a jamais été en contact avec la terre. Et là, pour lui, c'est une sorte de découverte, enfin de redécouverte. Et il cherche donc un terrain. Et dans une annonce sur le journal, il découvre qu'il y a un terrain disponible à Saint-Chamond.
Alors c'est le hasard finalement, Saint-Chamond à l'autre bout du département.
Alors dans la réalité de l'histoire familiale, je ne sais pas. Mais dans le roman, oui, c'est du hasard. Il trouve une annonce, il y répond. Et dans cette occasion... Non, pardon, il trouve du travail à Saint-Chamond d'abord.
Aussi, oui.
Il trouve du travail. C'est parce qu'il a du travail à Saint-Chamond qu'il est sur place et qu'il découvre qu'il y a une possibilité d'acheter un terrain. Il achète ce terrain... Et il fait les plans d'une grande maison. Il lui reste trois enfants. Il en a perdu deux. Mmh. Il lui reste trois enfants. Donc, il faut une maison avec trois niveaux. Un rez-de-chaussée et deux étages. Donc, il fait les plans. Il fait construire cette très grande maison. Dans le terrain, il construit une partie. Il installe une partie de potager qui va lui permettre de faire des légumes pour sa famille et pour les épiciers du coin. Et dans l'autre partie, un vignoble qui va lui permettre de faire le vin également pour sa consommation, mais aussi pour la vente. Il redevient paysan, agriculteur, producteur et vendeur.
Alors, question à la marge, si on peut dire. Est-ce qu'il y a eu réellement des vignes à Saint-Chamond ?
Exact. Ah, oui. J'ai fait les vendanges dans cette fameuse vigne de
Croix-Raisin.
Ouais. Oh. J'étais pas grand. Hein. Mais à 8 ans, j'ai fait les vendanges sur la vigne de la Croix-Raisin.
Alors, est-ce que c'était anecdotique ou est-ce qu'il y avait d'autres vignobles ?
Non, c'est pas anecdotique. Il y avait sur les coteaux du Forêt, enfin, quand vous descendez la vallée du Gier, sur le versant gauche, donc le versant nord, au nord du Gier, il y avait des vignes, curieusement, versant nord.
D'accord.
Et entre autres, dans ma belle famille, il y a un terrain qui reste qui était d'anciennes vignes. Il y avait des vignes sur tout le long, y compris jusqu'à Lyon. Quoi.
D'accord.
Et là, donc, cette vigne, je vous garantis qu'elle est authentique, puisque moi, je l'ai pratiquée. Quoi.
D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que ces vignobles dateraient des temps romains, puisque les Romains sont venus capter l'eau, le gier, tout ça? Donc,
alors là, je suis désolé, mais je vais être obligé de me taire, parce que vous allez trop vite. C'est le prochain livre, mon prochain livre. Le sixième roman qui va traiter du sujet. Effectivement, pour être court... Il y avait une très grande exploitation, une villa, on disait comme ça à l'époque,
romaine,
viticole, à Saint-Laurent-d'Agny, à Goiffieux exactement, que j'ai appelé dans mon livre la Villa Goffiacus, puisque c'était son nom romain à l'époque.
D'accord.
Donc là, on brûle les étapes. Le livre sort dans une quinzaine de jours.
Ça nous met l'eau à la bouche.
Et ça s'appellera, puisqu'on va aller jusqu'au bout, les Amants de l'Aqueduc. Donc il y avait vraiment des vignes dans dans cette région.
Il n'y a plus rien aujourd'hui.
Non, il n'y a plus rien. Les vignes ont été arrachées, le terrain a été loti. Une partie du terrain, d'ailleurs, mon papa a fait construire une maison où j'ai fait toute mon enfance jusqu'à ce que je m'en aille. Quoi.
D'accord.
Enfin, le reste de mon enfance.
Alors, pour revenir au personnage, donc... la guerre de 14-18 qui se profile, hein, puisque précédemment on a parlé plutôt du début du siècle avec les lois de séparation. Donc cette guerre de 14-18 qui se profile pourrait bien ombrager la famille que vous suivez. Donc Honoré, le fils, est embarqué par l'armée du côté du Maroc et sur le front de l'Est le début du conflit.
Alors le Maroc, c'est son service militaire en 1908, donc c'est avant le conflit, il est chez les Zouaves. C'est assez rigolo d'ailleurs à écrire et à suivre, parce qu'ils avaient une tenue.
Alors rappelez combien d'années là, à l'époque, les services militaires ?
Alors, service militaire, à l'époque, bonne question. J'aurais dû donner mes notes.
Puisque ça a été,
je crois que c'était deux ans.
Deux ans, oui, puisqu'avant 14-18, ça a été porté justement à trois.
À trois après, oui. Donc, deux ans. Donc, il part au Maroc, effectivement. Et puis, je raconte un petit peu. Ils étaient là-bas pour, comment on appelait ça, pour pacifier le pays.
Oui.
Parce qu'en fait, c'était entre eux qu'il y avait des bagarres là-bas. Et puis, Casablanca avait quand même été... il y avait eu une... une attaque qui avait détruit le cimetière, je crois, et les autochtones n'avaient pas supporté ça, donc il y avait des rébellions.
D'accord.
Donc l'armée française, lui, il y a été à une époque où c'était calme, il n'a pas eu trop à se battre. Et puis il rentre chez lui, il repart faire son travail, disons, oui. aux aciéries de oui. la marine et d'Omécourt, qui était anciennement Creuse-aux-Loire. Mmh. Et puis il arrive le 1914, la guerre. Mais avant la guerre, il a rencontré une chérie. Et il se marie. Et pas plus tôt marié, on vient le chercher pour aller se battre.
C'est ça.
Et je ne sais pas si je vais plus loin de raconter sa misère.
On va laisser les lecteurs découvrir la fin.
On se doute qu'en 14, c'était pas un voyage d'agrément.
Bon, ils sont partis avec la fleur au fusil.
Oui, ils n'ont pas gardé longtemps. Elle a vite fané, la fleur.
Le reste a été plus noir que prévu. Alors, on va demander justement donc, à votre éditrice, qui sera là pour nous parler dans une prochaine émission de son ouvrage, donc Nathalie Roche, qui va justement nous lire un des passages du livre que nous avons évoqué, donc page 251, et le chapitre 15, qui justement nous parle le départ à la guerre en août 14, si mes souvenirs sont bons. On vous écoute.
Avant que la loi sur la séparation de l'Église et de l'État n'eût été promulguée, Honoré avait quitté le collège baccalauréat en poche. Son père lui avait obtenu une place d'employé de bureau à la manufacture. Mais il ne se voyait pas confiné dans ses murs alors qu'il rêvait de voyages pour découvrir d'autres paysages, d'autres gens, d'autres langues. Il consultait des brochures touristiques, se renseignait auprès de clients étrangers, mettait de l'argent de côté pour financer un éventuel séjour en Angleterre. À 19 ans, il se sentait des fourmis dans les jambes. « Tu as hérité de ton grand-père qui est parti en Guadeloupe. L'appel du grand large, » lui disait son père. Sauf que grand-mère Marie-Jo m'a dit qu'il n'était pas parti de son plein gré. Moi, je veux découvrir le monde avant de revenir auprès de vous. Edwige, elle, était plongée dans la semaine de Suzette, un journal hebdomadaire pour enfants auquel l'avait abonné sa tante Marinette afin qu'elle perfectionne sa lecture. Elle riait aux bêtises de la fameuse bécassine.
Alors, on va vous demander de continuer, puisqu'il y a un petit passage aussi qui nous explique ce qu'on disait tout à l'heure, les turpitudes au moment de la séparation de l'Église et de l'État.
La loi avait entraîné la réalisation d'inventaire des biens de l'Église, mais dans certains villages, c'est avec des fourches et des faux que des fonctionnaires et les gendarmes qui les protégeaient étaient reçus. La riposte était parfois sévère. Il y avait eu une fusillade à Monistrol d'Allier, des émeutes à Fraissenay-la-Cuche, en Haute-Loire. Ailleurs, un boucher avait été abattu en s'opposant à l'inventaire de l'église du village. Les excès des uns entraînent souvent les excès des autres.
Très bien, merci. On va demander à Alain, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre texte lu ?
Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, c'est très émouvant. Parce que... C'est tout d'un coup, j'ai l'impression que les mots ne m'appartiennent plus.
C'est ça, c'est normal.
C'est très agréable. Bon. On ne peut pas lire tout le livre, là, comme ça.
Voilà, en tout cas, donc, merci. Félicitations, donc, pour cette grande histoire en trois tomes. Bon, donc, c'est un gros chantier qui a duré quelques années. Alors, nous ne pouvons qu'encourager les lecteurs à découvrir la saga, hein, pas forcément que le dernier tome, mais aussi les autres. D'Alain Faucoux, publié, on va le redire, aux éditions du Maupassant. Et puis, un ouvrage que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Voilà, merci.
Merci à vous.